Bonsoir, la conférence épiscopale nationale de la RDC Senko réclame une fois de plus l'application de l'accord du 31 décembre 2016, encore appelé accord de la Saint-Sylvestre, dans son message délivré au terme de la 55e assemblée plénière des évêques. Cette institution de l'Église catholique invite le chef de l'État à respecter la Constitution et l'accord de la Saint-Sylvestre. Au gouvernement, la Senko demande de parachever les mesures de décrispation du climat politique et à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, d'accéder à la demande d'une expertise de la machine à voter. Quelle analyse faire de ce énième message de l'Église catholique? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo. Abbé Donatien Cholet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes au téléphone. Dieudonné Moinzé, c'est aussi un des invités ce soir, député national honoraire et cadre du PPRD. Il est aussi communicateur de la majorité présidentielle. Dieudonné Moinzé, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Dona Madiba.
Vous êtes avec nous en studio à Radio Okapi. Quelqu'un d'autre qui est au bout du fil, qui est le troisième invité de ce débat ce soir, professeur Moïla Tiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Moïla, bonsoir.
Bon.
À tous, bienvenue à cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La Conférence épiscopale nationale de la RDC Senko réclame une fois de plus l'application de l'accord du 31 décembre 2016, encore appelé accord de la Saint-Sylvestre. Dans son message délivré au terme de la 55e assemblée plénière des évêques, cette institution de l'Église catholique invite le chef de l'État à respecter la Constitution et l'accord de la Saint-Sylvestre. Au gouvernement, la Senko demande de parachever les mesures de décrispation du climat politique et à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, d'accéder à la demande d'une expertise de la machine à voter. Les détails avec Blaise Chindani.
Le cardinal, archevêque et évêque se disent très préoccupés par les incertitudes qui planent sur notre pays. À 6 mois de la tenue des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, remarquent-ils dans leur message, le climat politique demeure encore tendu, la situation sécuritaire et humanitaire précaire et les droits de l'homme sont bafoués. En ce qui concerne le calendrier électoral publié, la Senko reconnaît les avancées accomplies dans le processus électoral, notamment l'existence d'un fichier électoral, la mise en œuvre partielle des mesures de décrispation du climat politique, un timide respect de la liberté des manifestations publiques. Cependant, poursuit la Senko, au lendemain de la convocation de l'électorat, les avancées susmentionnées ne rassurent pas au regard des inquiétudes telles que le climat politique, le fichier électoral décrié par une frange de l'opposition, ainsi que la machine à voter. Soucieuse de sauver le processus électoral, la Senko demande au président de la République d'assumer ses responsabilités devant la et de prêter l'oreille aux aspirations du peuple congolais en veillant au respect de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au peuple congolais de continuer à exiger des élections crédibles dans le respect du calendrier électoral publié, de ne céder ni à la peur, ni à la résignation et encore moins à la violence. Résistons à l'achat des consciences et aux manipulations politiciennes, renchérit la Senko.
Monsieur l'abbé Donatien Cholet, c'est un plaisir de vous avoir une fois encore pour ce débat sur Radio Okapi. Vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale de la RDC. Monsieur l'abbé, encore un autre message des évêques catholiques, alors que les précédents semblent ignorés, voire pas exécutés du tout. Est-ce que ce dernier message des évêques n'est pas tout simplement un autre message inutile de plus?
Ben, je ne crois pas que c'est un message inutile dans la mesure où le peuple congolais écoute quand même les évêques. Le peuple congolais devient de plus en plus éveillé, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des points positifs qui ont été salués. Mais, comme les évêques l'ont intitulé, sauvons le processus électoral. Donc, le processus électoral est encore en danger. C'est-à-dire le Congo se retrouvent comme dans un ravin, et pour sortir de ce ravin, il faut réussir le processus électoral. Et voilà pourquoi les évêques reviennent sur les inquiétudes qui préoccupent les Congolais aujourd'hui pour, un bon pasteur, appeler les uns les autres à leurs responsabilités pour qu'on sorte pacifiquement de cette crise. Le peuple congolais a beaucoup souffert, le pays est humilié, il est temps qu'on mette fin à cette crise, et pour les évêques, la meilleure façon de le faire pacifiquement, c'est sauver le processus électoral. Et si on les écoute dans les différentes recommandations qu'ils sont en train de faire, alors qu'ils n'ont aucun intérêt politique, je crois qu'on aura choisi la voie de la sagesse, la voie du bien-être pour le peuple congolais.
Monsieur l'abbé Donatien, pourquoi les évêques continuent-ils à émettre des messages les uns après les autres, alors que, comme vous le constatez certainement avec toute l'opinion, ces messages sont à peine écoutés? La preuve est que vous-même, vous demandez à la majorité et au président de la République, pour certains cas, de faire exécuter un des accords, un des instruments produits par les évêques. Pourquoi la SENCO ne change-t-elle pas de stratégie?
Eh bien, écoutez, les évêques sont les pasteurs. Les évêques répondent à leur mission prophétique. Les prophétiques prêchent à temps et à contre-temps. Et les évêques seront jugés par Dieu face par rapport à leurs responsabilités. S'ils se taisent là où ils ont un mot à dire pour que les choses aillent de l'avant, c'est leur responsabilité. Et s'ils ne sont pas suivis, c'est chacun qui répondra devant Dieu et devant l'histoire. Je crois que ils ne vont pas se laisser décourager, et ils sont aussi des hommes d'espérance. Ils espèrent que même à la dernière minute, ils pourront être suivis, si pas par tous, mais au moins par quelques-uns qui veulent le bien de ce pays.
Généralement, quand quelqu'un n'est pas écouté, il se fatigue, il est probablement énervé. Est-ce que vous qui les côtoyez tous les jours, avez-vous l'impression que les évêques sont de temps en temps énervés? Est-ce qu'ils sont un peu fatigués peut-être de continuer à dire tout le temps les mêmes choses?
Eh bien, je crois que même la Bible le dit, hein, vous allez quelque part, on vous reçoit pas secouer la poussière du sol, ben, on n'en est pas encore là, mais nous ne souhaitons pas que ça arrive un jour. Les évêques sont les hommes. Ce qui les préoccupe le plus, c'est le fait de voir les brebis qui leur sont confiés continuer à souffrir dans un contexte où la solution est à portée de main. Ça, c'est une souffrance. Je le lis régulièrement quand je suis avec eux. Ils perdent des heures et des heures à réfléchir comment faire pour sortir le pays de cette crise.
Alors, que répondez-vous au peuple de RDC qui, avec tout ce constat de messages non exécutés, ignorés par moment, que répondez-vous au peuple de RDC qui accuse depuis un moment la SENCO de complicité avec la majorité, vu qu'elle ne veut pas changer de stratégie pour faire avancer les choses?
Non, je crois que si vous lisez très bien le message des évêques, les évêques ne s'adressent pas seulement aux politiciens, à ceux qui sont au pouvoir, à ceux qui sont à l'opposition. Ils s'adressent aussi et surtout au peuple de Dieu, à la population, aux fidèles catholiques, aux hommes de bonne volonté, qui ont aussi une grande part de responsabilité. Réaliser les recommandations qui leur sont faites, de ne céder ni à la peur ni à la résignation, de barrer la route à quiconque les empêcherait au processus électoral d'aboutir. J'ai fait allusion à l'avant-dernier message. Donc, si les évêques, le peuple congolais, les catholiques et les hommes de bonne volonté se mettent debout parce que ce message n'est pas encore passé, eh bien, je crois qu'on aura une solution. Mais on espère encore que pacifiquement, et d'ailleurs, la solution ne peut être que pacifique selon les évêques. Donc, au lieu de se plaindre, les Congolais doivent comprendre que c'est leur vie qui est en jeu, c'est leur avenir qui est compromis.
Alors, en principe, les évêques, la SENCO, ont la possibilité de pouvoir rencontrer les principaux animateurs des institutions. Je vois que dans leur dernier message, ils s'adressent aussi bien au chef de l'État, à la population, au gouvernement, à la CENI. Mais pourquoi la CENCO est-elle obligée de passer par des messages? Pourquoi ne rencontre-t-elle pas directement le président de la République? J'imagine que la CENCO peut rencontrer le président de la République. Si ce n'est pas possible, dites à l'opinion, est-ce que la CENCO a désormais la porte de la présidence de la République fermée? Est-ce que la porte des autres institutions et des animateurs de ces institutions lui sont aussi fermées, les portes de la CENI ou du gouvernement par exemple? Pourquoi la CENCO passe-t-elle aujourd'hui par des messages au lieu de rencontrer les animateurs directement?
Bon, c'est une façon aussi de prendre la population à témoin. Mais la CENCO fait les deux. Dans la mesure du possible, dans le passé, elle a rencontré plusieurs fois le chef de l'État. Ce dont nous parlons maintenant, ce n'est pas l'actualité d'aujourd'hui, c'est depuis le dialogue qu'on est dans ces discours. Régulièrement, on est en contact avec le président de la CENI, et dernièrement encore. Voilà, donc, c'est une devoir. Et n'oubliez pas, pour certaines institutions comme le gouvernement, le CENSA, la délicatesse de la chose dans la mesure où ces deux institutions ont été mises en place de manière non respectueuse de l'accord. Mais le plus important est que le message passe.
Abbé de l'Ancien Cholet, nous vous remercions pour cette première prise de parole. Nous reviendrons à vous. Dieudonné Mwenze, député national honoraire et cadre du PPRD, vous êtes aussi communicateur de la majorité présidentielle. Est-ce que ce message des évêques est utile pour vous? Et surtout, pourquoi la majorité présidentielle n'écoute-t-elle désormais plus personne, ni les évêques, ni personne?
Merci, Monsieur Donat. Je peux vous rassurer et rassurer vos auditeurs que la majorité présidentielle reste toujours à l'écoute de toutes les tendances politiques et toutes les organisations de la société civile et de surcroît nos prélats catholiques et les pasteurs en général.
Mais est-ce que ce message était utile?
C'est ce que je voulais dire. Ce message, nous devons dire qu'il était utile. Il était utile dans ce sens que lorsque ça vient de pasteurs qui sont des serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas dire que le message n'est pas utile. Mais dire que le message est utile est une chose, mais dire aussi que tout le contenu est bon en est une autre. Je crois que là où nous avons constaté quelques déficits d'informations et peut-être quelques omissions de la part de nos pasteurs, c'est que il y a des choses qui devraient en principe être dites, mais qui n'ont pas été dites.
Comme?
Et d'abord, il faut préciser, Monsieur Donat, que le processus électoral n'est pas en péril. Je crois que c'est d'abord important, puisque lorsque l'on voit ce message de leur 55e assemblée plénière, on constate qu'il commence par dire « sauvons le processus électoral ». Je crois que le processus n'est pas en péril, mais il est vrai que ce processus s'accomplit avec beaucoup de difficultés. Je ne pense pas que les difficultés doivent être synonymes d'un quelconque péril. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que j'ai salué ce message personnellement, et même à la majorité présidentielle, nous avons salué ce message, puisque lorsque vous visitez ce message au point 4, je crois, les prélats ont été honnêtes pour reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'avancées significatives dans ce processus électoral, même s'ils en épinglent que quelques trois simplement. Mais je crois qu'il y a encore d'autres. Je suppose pour moi qu'il s'agit d'une citation non exhaustive. Là où nous avons trouvé un peu de défaillance, c'est quoi par rapport à ce message? C'est que quelque part, il y dénonce le fait qu'il y a certains acteurs politiques, surtout de l'opposition, qui menacent de boycotter le processus, mais ils ne font aucune recommandation par rapport à ce boycott qu'ils dénoncent, d'ailleurs, je crois, au point 8. Mais lorsqu'ils font des recommandations à toutes les tendances politiques, à la société civile, aux jeunes, et même à la communauté internationale, au gouvernement de la République et à la présidence, le président de la République comme institution, mais ils ne font rien comme recommandation à ceux qui menacent le boycott du processus, puisqu'ils l'ont relevé eux-mêmes au point 8. Ils disent que ils sont en train de menacer le boycott du processus sans en évaluer les conséquences. Je suppose qu'il s'agit des conséquences qui ne sont pas heureuses, mais qui sont néfastes. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ça? Puisqu'on va me dire peut-être que non, on ne peut rien dire pour ce qui concerne l'opposition, mais l'opposition est instituée de par la Constitution. On ne peut pas fonctionner dans un pays démocratique sale sans l'opposition politique. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à cette opposition? C'est là que nous sentons que cette église au milieu du village a tendance à ne pas rester à ce milieu du village. Et là, j'ai la chance aujourd'hui de battre sur ces ondes de la radio Capi avec un responsable important de la CENCO, qu'ils comprennent que nous sommes allés au centre interdiocésain puisque nous avions compris à son temps qu'il s'agissait réellement des pasteurs de Dieu, des personnes qui observent l'impartialité, la neutralité et qui ont la possibilité d'assurer les missions des bons offices sans défaillance.
Mais il se fait que
depuis un temps, oui, nous constatons que cette neutralité pose problème. C'est ce qui fait que peut-être l'impression que l'opinion a, c'est qu'à la majorité, nous semblons pas tellement écouter la CENCO, surtout qui se limite maintenant à faire beaucoup plus de publications et de messages, puisque beaucoup de gestes qui ont été posés à la CENCO montrent qu'ils ont abandonné la voie de la neutralité et qu'ils ont voulu aller dans un camp. Et à ce moment-là, ça nous frustre à notre niveau, puisqu'ils doivent toujours se rappeler que le choix de la CENCO comme médiateur ou comme agent de bons offices est venu de l'autorité morale de la majorité présidentielle.
Dieu de Nemoisé, pourquoi, selon vous, le processus n'est-il pas en péril? Est-ce que le processus ne serait-il pas en péril, justement, si, dans le contexte actuel, on constate, par exemple, que le fichier électoral est toujours contesté, avec des irrégularités que vous connaissez, la machine à voter qui reste un sujet à débat est rejetée par l'opposition non institutionnelle, le climat politique toujours crispé, avec les prisonniers qui devaient être libérés selon les ententes, qui sont toujours en prison, le CENSA, la CENI et le gouvernement qui ne se rencontrent plus.
Oui, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Donat. J'ai dit bien, j'ai reconnu, et comme les prélats et même les membres de la CENCO le disent, ils y reconnaissent les avancées. Et moi également, je reconnais ces avancées. Mais nous disons simplement que le processus n'est pas en péril. Ce n'est pas puisqu'il fonctionne, il évolue avec des difficultés, qu'on peut dire qu'il est en péril. Non, il a des difficultés. Et d'ailleurs, les difficultés inhérentes à tout processus électoral, surtout à un processus qui est beaucoup plus contesté, dans un environnement contesté, comme celui de la République démocratique du Congo, je crois que ça nous reconnaissons. Mais lorsque vous parlez du fichier, chez nous à la majorité présidentielle, y compris l'autorité morale, nous reconnaissons réellement qu'après l'audit de l'OIF sur ce fichier électoral, il y a eu des faiblesses et des recommandations ont été avancées et je crois que la CENI doit travailler dans le sens d'améliorer ce fichier. La machine à voter, je crois, et c'est une question qui a été débattue dans beaucoup de salons et à la République démocratique du Congo, nous comprenons que la CENI n'a pas inventé pour rien la machine à voter. Je crois que c'est sur base, et là j'interpelle la CENCO au travers de monsieur l'abbé Cholet et pour dire que c'est venu du point 4.4 de l'accord de la Saint-Sylvestre où il est dit clairement, il est demandé à la CENI d'explorer les voies et moyens pour rationaliser le système électoral congolais pour réduire les coûts excessifs des élections. Ça c'est contenu dans l'accord de la Saint-Sylvestre et lorsque la CENI commence à explorer sur demande des participants et signataires de cet accord de la Saint-Sylvestre, la CENI dit, bon, dans cette exploration, je pense que l'on peut diminuer les coûts en procédant par une machine à voter qui, en principe, ne fait pas l'objet d'un vote électronique comme nous la comprenons, non. Il s'agit d'une imprimante qui permet à ce que l'on diminue le nombre de bulletins de vote avec tout ce que ça peut entraîner comme diminution de coûts en ce qui concerne la logistique, la manipulation, les déploiements sur le terrain, ainsi de suite. Et si aujourd'hui nous sommes à ce niveau-là, Merci. Je crois qu'il ne s'agit pas d'une faute qu'il faut incomber nécessairement à la CENI. Il faut partager ça. Et d'ailleurs, même la SADC, même l'UA a recommandé à ce que l'on puisse, au niveau de la CENI, faire une sensibilisation nécessaire. Merci. Avec les experts de l'ONU en ce qui concerne les matières électorales pour que cette machine soit comprise par tous les Congolais et que ça ne puisse pas poser un problème.
Dieudonné Mouenze, merci. Vous allez revenir pour enrichir votre réflexion. Professeur Moïla Tiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. En fait, vous avez certainement entendu la question que je vais vous poser tout à l'heure plusieurs fois et vous avez peut-être donné plusieurs réponses. Cette fois-ci, on va voir quelle est votre réponse par rapport à ça. Pour vous, à ce stade, est-ce que c'est la CENCO qui a une meilleure observation du processus électoral quand elle dit qu'elle est en péril ou bien c'est la majorité qui voit bien lorsqu'elle dit qu'il n'y a pas de péril mais plutôt quelques difficultés?
Donc, il faudrait d'abord préciser ou rappeler une chose qui me paraît importante. Premièrement, il faut dire que c'est, il faut avoir le courage, sinon la lucidité, de reconnaître que c'est une chance pour la République démocratique du Congo d'avoir un clergé compétent, dévoué, éclairé, patriote, parce que ces appels incessants, la Cinco ne le fait pas pour les intérêts de l'Église. C'est pour l'intérêt de la nation. Et d'ailleurs, c'est au nom de l'intérêt de la nation que le président de la République a consenti à confier les bons offices à la Cinco pour débloquer la crise politique qui courait le risque de mettre la nation en péril. Donc, les prêtres sont, notamment la Cinco, sont en train d'assumer la mission d'alerte de l'opinion à la fois nationale et internationale sur ce qui a été fait, d'abord ce qui a été convenu, ce qui a été fait et ce qui reste à faire. C'est le rôle élémentaire de tout médiateur ou de toute personne organe chargé de bons offices. Il ne suffit pas de réunir les gens, d'aboutir à un accord et puis de tourner les pouces lorsque, de part et d'autre, il y en a qui disent que l'accord est totalement appliqué, d'autres disent qu'il ne l'est moins. Bah, l'intérêt, sinon la responsabilité de ceux qui ont négocié cet accord, c'est de revenir à charge des signataires pour leur rappeler leurs droits et leurs obligations. C'est ce que l'Église est en train de faire. Par exemple, le fait de dire, de s'adresser au président de la République et de lui demander de ne pas briquer le troisième mandat, cet appel, monsieur Honorable Mondé, c'est qu'il est impliqué, ça fait partie de l'accord qui a été signé. C'est l'un des points de l'accord. Et vous vous souvenez, nous avons déjà dit plus d'une fois sur votre antenne que le président de la République, nous défendions cette thèse il y a bien longtemps, n'a pas l'intention ou n'a pas exprimé l'intention de violer la Constitution, ni par acte, ni par parole. L'histoire nous donne raison. À ce jour, personne, même ceux qui ont raison, ont pensé que le président de la République était en train de machiner au regard du droit. Il n'y a que les actes qui comptent. On ne peut pas partir des prétentions, des intentions prêtes à quelqu'un et de dire, voilà, il est en train de préparer la violation de la Constitution. Alors, que la Cinco rappelle l'un des points de l'accord, c'est-à-dire pas du troisième mandat, il n'y a rien là d'offusquant, il n'y a rien de blessant, il n'y a rien de partisan, ce n'est qu'un élément de l'accord. Le deuxième élément qui consiste à demander au gouvernement d'aller au-delà ou de conduire jusqu'à la fin les mesures de décrispation. Honorable Moïse était en train de dire tout à l'heure, mais le processus n'est pas en péril. Mais le président de la République qui a convoqué ce dialogue a utilisé un mot. Il faut que les élections soient paisibles. Et pour que les élections soient paisibles, il faut que tous les acteurs, réels ou supposés, puissent avoir l'accessibilité, notamment des candidatures. Il y a des noms de personnalités politiques qui figurent dans l'accord. L'intérêt de la République et de la paix que le président de la République avait bien identifié, c'est de faire en sorte que les personnes nommément indiquées dans l'accord bénéficient des mesures de crispation. C'est ça là, l'intérêt d'aller vers les élections paisibles. Par exemple, le troisième point, le message adressé à la CENI, je ne doute pas que M. Nanga soit un patriote qui aime son pays et qui souhaite que les élections se terminent bien et que ce pays ait un nouveau président. Mais si on lui fait confiance sur ce postulat, il doit faire en sorte que sa machine à voter ait de la crédibilité dans l'opinion. Parce que savez-vous que si on fait les élections pour faire les élections, le lendemain même des résultats, les troubles vont éclater parce que tout le monde sera capable de dire, oui voilà, moi j'avais gagné, s'il n'y avait pas de machine, voilà. Même ceux qui n'auront pas gagné. Donc, l'intérêt supérieur de la nation dicte que M. le Président de la CENI, de bonne foi, permette une expertise de la majorité présidentielle, de l'opposition, des partenaires, même de la SADC.
Merci.
On a entendu il y a quelques jours les partenaires de la SADC qui sont venus. C'est dans l'intérêt de la nation.
Merci, professeur Moïla. Nous reviendrons aussi à vous pour enrichir votre réflexion. Allons d'abord écouter cette réflexion de notre auditeur qui vient de Isiro. Et cette réflexion, nous aimerions recueillir le point de vue de M. l'abbé Donatien Cholet.
Donatien Isiro, on va se dire où elle est. Bien que le énième message de l'Église catholique aux politiciens est une interpellation prophétique, et c'est pour garantir la paix avant, pendant et après les élections, il semble dire que le cri de détresse que la CENCO a toujours lâché est une goutte d'eau dans l'océan. Et si la CENCO continue à croire encore qu'elle sera écoutée par les politiciens congolais, l'heure est déjà passée et l'accord de Saint-Sylvestre a été déjà atterré. À mon avis, l'appel de la CENCO a montré déjà ses limites. Elle doit plutôt montrer un autre chemin au peuple congolais pour sauver la RDC qui risque de tomber dans le chaos par manque de volonté et souci des gens qui nous dirigent.
Secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale de la RDC, abbé Donatien Cholet, le message qui est envoyé par les évêques cette fois-ci n'a véritablement pas grand-chose de différent avec tous les autres appels qui ont été émis précédemment, le respect de l'accord du 31 décembre, la décrispation du climat politique, cela n'a pas été exécuté. Comment pensez-vous que cette fois-ci, le même message pourra apporter des effets?
Vous convaincrez avec moi que la répétition est la mère de la sagesse, et je l'ai déjà dit, les prophètes prêchent à temps et à contre-temps. C'est dommage que mon frère, l'honorable Moïse de la majorité, prétende que le processus n'est pas en péril. Et je lui demanderai simplement de faire un petit sondage dans sa propre famille, qui demande combien croit que ce processus va aboutir. Il sera surpris par le doute qui plane. Les évêques viennent de tous bords, ils viennent de la population. Quand ils parlent, c'est en conséquence de causes. Alors, même si ce sont des choses qui ont été dites d'une certaine façon, le redire maintenant avec force et à quelques mois de la fin, je crois que c'est quand même signe qu'ils n'ont pas lâché bride, ils sont responsables. J'ai saisi l'occasion pour dire à l'honorable Moïse que je ne suis pas d'accord avec lui. Si vous lisez bien le message des évêques, l'opposition aussi a eu sa part de recommandations. Quand on parle aux acteurs politiques de s'engager de bonne foi et d'éviter tout extrémisme, je crois que l'opposition est là-dedans. Quand l'opposition demande de rejeter le fichier ou d'éradiquer les 16,6% des enrôlés sans empreinte, la CENCO vient avec une solution médiane, qu'on publie les listes parce que la CENCO croit que c'est aussi possible que, tout en bien que les empreintes ne sont pas là, que c'est possible que ces personnes se soient enrôlées réellement. Donc la CENCO n'a pas pris le point de vue de l'opposition. Par rapport à la machine à voter, vous savez la position radicale de l'opposition, vous avez la proposition faite par les évêques. Donc c'est dire que les évêques sont libres dans leur raisonnement et, je répète, être au milieu du village pour l'Église ne veut pas être à distance égale entre les opprimés et les oppresseurs, entre le peuple et le pouvoir. Les évêques ont le devoir moral d'être plus proches de ceux qui souffrent, des pauvres.
Et est-ce que ce n'est pas un peu prêter le flanc à ceux qui disent, pas comme vous, hein, être proche du peuple, mais plutôt être proche de l'opposition non institutionnelle, autrement appelée radicale?
Ben, je vous ai donné quelques éléments qui montrent que sur le point d'inquiétude qui préoccupe la CENCO n'a pas le même point de vue que l'opposition. Justement, le point de vue de la CENCO, c'est le point de vue sans complaisance, le point de vue qui vise à sauver le processus électoral sans extrémisme. Ce serait dommage si la CENI, dont tous ceux qui ont reçu des recommandations, s'ils ne le font pas, ça signifie qu'ils n'aiment pas ce pays. Parce que ce que les évêques proposent, c'est vraiment des choses objectives pour sortir le pays de la crise.
Alors, monsieur l'abbé Donatien Cholet, il n'y a pas très longtemps, les évêques parlaient et même avaient plutôt bon contact et bon climat avec le président de la République. On a vu des images. C'est pas des choses à cacher. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, vous n'avez pas répondu à cette question quand je vous l'ai posée, est-ce que la CENCO peut aujourd'hui aller voir le président de la République et parler froidement pour trouver une solution?
Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ils sont ouverts à cela.
Pourquoi c'est passé?
C'est d'ailleurs une proposition dans l'avenir.
Et vous pensez que cela va se passer dans combien de temps?
Non, non, ce n'est pas moi, secrétaire, de fixer le temps, mais la CENCO est ouverte au dialogue avec toutes les parties prenantes, y compris le président de la République. Donc, ça peut venir à tout moment. En tout cas, ils n'ont pas pris une position de ne pas le rencontrer.
Est-ce que vous pensez que les évêques vont une fois encore demander au président de la République de ne pas céder aux propositions de ceux qui lui demandent de se représenter une troisième fois, vu que la Constitution ne le permet pas? Cette question n'est pas anodine. Vous savez très bien toutes ces allégations qu'on prête au PPRD, le principal parti présidentiel. Ses animateurs semblent avoir déclaré publiquement à plusieurs endroits ouverts que leur candidat c'était Joseph Kabila.
Voilà pourquoi les évêques sont revenus avec le terme de l'accord qui précise justement les choses. Donc le président de la République, c'est une grande autorité qui a besoin du respect et il comprend bien les choses. Quand les évêques s'expriment de cette façon-là, c'est déjà un message. Lui-même ne s'est pas encore prononcé, ne s'est pas prononcé dans le sens de présenter sa candidature. Bien au contraire, les discours qu'il a eu à tenir jusque-là font croire qu'il ne va pas se présenter, sauf surprise de dernière minute. Mais avec les politiciens, on ne sait jamais. Étant donné que ce sont des ténors de la majorité qui viennent avec de tels propos et qui n'a pas une voix de la hiérarchie qui vient corriger, ça préoccupe. Voilà pourquoi les évêques n'ont fait que rappeler le point de l'accord et ne pas respecter ce point-là précisément. Je vous assure, c'est prendre une autre voie que la voie des élections.
Député national honoraire et cadre du PPRD, mais aussi communicateur de la majorité présidentielle, Dieudonné Mouenzé, vous allez réagir, mais avant cela, nous allons écouter cette réflexion de Bukavu.
Isaac Bampori, qui est de Bukavu au sud de Kivu. Si ce sont les cloches de l'église catholique, se fait entendre plusieurs fois, c'est parce que ceux à qui il est destiné font la sourde oreille et cela n'est que de la mauvaise foi. Si l'appel provenait des États-Unis avec menace de gel des avoirs et d'embargo en voyage, la réaction positive ne tarderait pas à intervenir. C'est presque comme cela que fut publié le calendrier électoral prévoyant les élections en 2018, exactement à rester au souhait exprimé par l'envoyé des États-Unis. Finalement, qu'est-ce que la souveraineté dont se prévaut orgueilleusement le régime en place? Quand est-ce que notre classe politique deviendra mature, elle qui se comporte en enfant capricieux, qui n'obéit qu'à celui qui se tient derrière lui avec un fouet?
Honorable Dieudonné Mouenzé, j'enlève tout de suite le mot enfant, mais est-ce que la majorité n'est-elle pas un peu trop capricieuse justement?
Non, je crois que notre ami Isaac Bampori de Bukavu interpelle toute la classe politique congolaise et je crois qu'il a parlé des hommes politiques congolais et je crois que ça ne s'adresse pas simplement à la majorité présidentielle. Et là, il a raison. Nous ne devons pas nous comporter comme des bébés éternels. Nous sommes un pays indépendant. Je crois qu'après plus de 50 temps de souveraineté nationale,
58
aujourd'hui, je crois que nous devons nous comporter en état mature. Et là, il a raison. Moi, je lui donne pratiquement raison. Mais je crois que ce qu'il voulait peut-être dire par rapport à ça, c'est que c'est une interpellation qui concerne tous les acteurs politiques pour que nous puissions réellement nous approprier le processus électoral, que nous ne puissions pas penser que le pouvoir vient de l'extérieur. Je crois que le souverain primaire, c'est le peuple congolais. Et lorsque nous voulons chercher à exercer ces charges d'État, nous devons savoir compter avec le peuple congolais et ne pas compter avec l'extérieur, avec X, Y, comme il les a cités. Je crois que ça, c'est important. Et chez nous, à la majorité, nous tenons compte de cela. C'est pour cela que nous faisons de moins en moins de voyages à l'extérieur pour sensibiliser X ou Y. Nous faisons notre politique sur place et nous sommes engagés dans le processus pour les élections de décembre 2018, c'est-à-dire de cette année. Je ne suis pas tellement d'accord avec ce qu'a dit mon pasteur, j'ai dit bien Donatien Cholet, et lorsqu'il fait allusion aux opprimés et aux oppresseurs. Je crois que ce sont des termes qui frustrent, hein, mon pasteur. Vous devez éviter ce genre de termes. Recourir à ce genre de termes, ça frustre, puisque si tout de suite je peux vous poser la question, ou demander aux journalistes de vous poser la question, pour pointer qui sont oppresseurs et qui sont opprimés, je crois que là, ça pose encore un autre problème. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus avec des difficultés. Je persiste en disant, nous avons des difficultés dans ce processus. Le processus, ce n'est pas en péril, c'est un problème d'approche. Si l'approche de la CENCO est telle que le processus est en péril, il faut le sauver, je concède, ils sont des pasteurs de l'Église. Mais nous, nous pensons chez nous à la majorité présidentielle qu'il y a énormément de difficultés qu'il faut solutionner pour réellement sortir de cette crise. Mais le processus, il est là, le processus est en train d'évoluer, et d'ailleurs dans leur point 4, ils y reconnaissent cela. Mais lorsque, et là j'appuie ce que le prof a dit tout à l'heure, il faut éviter de juger les gens par des a priori, par des préjugés, il faut les juger sur base de leurs actes. Lorsqu'ils demandent au chef de l'État de respecter l'accord de la Saint-Sylvestre et de respecter la Constitution de la République, je crois qu'ils sont en train d'ouvrir une porte qui est déjà grandement ouverte. Et moi, je ne peux pas accepter que des hommes de Dieu, comme les membres de la CENCO, passent tout leur temps à enfoncer une porte qui est déjà ouverte et prétendre qu'ils vont l'ouvrir.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas quand même raison? La porte n'est pas si ouverte que ça.
Non,
si
elle est ouverte.
Si le PPRD, votre parti, malheureusement, qui met de l'huile sur le feu, demande au président de la République de se représenter pour un troisième mandat non valable.
Mais nous sommes dans une démocratie. Le PPRD ne peut pas dire ce qui est au-dessus de la Constitution. C'est la Constitution qu'il faut respecter. Nous sommes dans une démocratie. Il n'y a pas simplement au PPRD, on demande au chef de l'État de se présenter pour la troisième fois, mais il y a aussi dans l'opposition où on demande une transition sans Joseph Kabila. Et là, les prêtres ne le disent pas. Ça aussi, est-ce que c'est constitutionnel? Je voudrais que vraiment M. l'abbé Cholet nous réponde sur ça. Il entend ça tous les jours. Et là, je voudrais dire que il s'agit d'enfoncer une porte qui est déjà ouverte. On ne peut pas demander à un chrétien ou à un fidèle de l'Église de prier lorsqu'on le voit en train de prier. C'est une redondance inutile.
Merci.
Lorsque vous demandez au chef de l'État de respecter la Constitution, alors qu'il est garant de la Constitution, c'est une frustration, c'est-à-dire que vous soupçonnez qu'il ne respecte pas la Constitution. Alors que pour le chef de l'État, le fait de ne pas respecter la Constitution en tant que garant de la Constitution, ça peut constituer un acte de trahison.
Merci.
Et nous ne devons pas accepter chez nous à la majorité présidentielle.
Merci.
Je crois que jusque-là, le chef de l'État est respectueux et de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Peut-être pour l'application de la Saint-Sylvestre, il y a un problème d'approche pour savoir, on a appliqué jusqu'à quel niveau, qu'est-ce qui reste encore. Et ça, je crois que c'est le travail que la CENCO doit faire et le CENSA pour permettre à ce qu'on ait la bonne lecture de cet accord de la Saint-Sylvestre.
Merci Dieudonné Mouinze, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France, professeur Moïla Chiembe. Vous allez prendre la parole aussi, mais juste avant cette réaction de Kolwezi.
Chouk Mouigirwa à Kolwezi dans la province du Lualaba a recommandé à la CENI d'accéder à la demande d'une expertise de la machine à voter. La CENCO, tout comme la CENI, veulent mettre les opposants et la population devant un fait accompli, car l'usage de la machine à voter est contesté. Je pense qu'il n'est pas encore tard pour revenir au choix de scruter par bulletin de vote que l'ensemble de la population maîtrise bien, parce que l'objectif n'est pas d'organiser les élections pour plaire au pouvoir en place, mais de les organiser dans le but de sortir ce pays dans la crise politique profonde qu'il traverse avec moins de contestations possibles. Vous évitez donc une crise post-électorale. S'agissant de la décrispation du climat politique qui demeure en souffrance, je pense que la CENCO devrait réfléchir autrement, car sans une contrainte, rien ne sera fait. Ce n'est pas la première fois que le pouvoir en place les défis en passant outre les accords conclus.
Moi, la TMB.
Je pense qu'il y a lieu de savoir raison garder. De bonne foi, on peut présumer que la CENI et son président sont de bonne foi. Ce sont des Congolais qui aiment leur pays, qui souhaitent que ce pays sorte de la crise actuelle. Mais seulement, voilà, lorsqu'on est de bonne foi, lorsqu'on est patriote, on doit dire les choses justes et surtout agir justement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la machine à voter doit être soumise à l'expertise nationale et internationale pour garantir, pour donner la crédibilité au processus. Ça ne sert à rien d'organiser les élections et de voir le lendemain les gens dans la rue en train de contester les résultats avec tous les risques que le pays peut encourir, le pays n'en a pas besoin. C'est, je pense, dans l'esprit de la CENCO et du pays, c'est ce message-là qui est adressé à la CENI et à son président. Il ne s'agit pas de considérer que la CENI cherche je ne sais pas quel intérêt particulier, mais il faut que l'expertise de cette machine soit faite pour mettre tout le monde d'accord, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et concernant la décrispation, mais l'accord de la Saint-Sylvestre avait des noms spécifiques de personnalités politiques. On ne peut pas ignorer cette responsabilité en disant « oui, leurs noms sont dedans, mais qu'est-ce que vous voulez ?» Non, une partie de ces personnes ont déjà obtenu la liberté. C'est ce qui a déjà été fait, la CENCO l'a reconnu. Il faut souhaiter que le gouvernement d'Union nationale, il faut le rappeler, tout le monde parle du président de la République, le président de la République, mais le président de la République n'est pas le chef du gouvernement. On a quand même un gouvernement d'Union nationale, il y a quand même le CNSA. Alors, où sont ces personnalités? Et la majorité existe et l'opposition existe. Pourquoi tout ce beau monde ne prend pas à bras le corps cette question et tout le monde voit toujours le président alors qu'on a un gouvernement? On a un parlement avec les deux chambres. On a l'opposition qui a participé à cet accord.
Professeur Moïla, c'est déjà les conclusions de cette émission. Alors, jusqu'à présent, l'accord a été, pour certains, à moitié appliqué, pour d'autres, presque pas appliqué. Qu'est-ce que, selon vous, le gouvernement peut encore faire et les différentes parties peuvent faire pour appliquer chacune ou chacun à son niveau les parties qui lui sont consacrées?
L'intérêt supérieur de la nation commande que chacun fasse sa part du travail. Le gouvernement d'Union nationale doit assumer sa responsabilité. La CENCO, qui a été chargée par le président de la République de mener ses bons offices, doit assumer cette responsabilité. Tout à l'heure, vous demandez à M. Radé Chollet quand est-ce qu'il rencontrerait le président. Je présume que ça ne relève pas de sa propre compétence, mais il est de l'intérêt de la nation que la CENCO reprenne l'angle avec le chef de l'État.
Merci.
Pour pouvoir trouver des solutions à cette question.
Merci, professeur Moïla. Dieudonné Mwenze, en 15 secondes, comment pouvez-vous faire pour appliquer ce qui vous est demandé à votre camp politique?
Non, dans notre camp politique, tous les jours, nous nous efforçons pour appliquer ce qu'il faut appliquer. Mais ce que je peux demander au pasteur Donatien Chol, et qui ne m'a pas convaincu, c'est que lorsqu'il parle au point 19 des acteurs politiques, il parle de tout le monde, puisque les acteurs politiques sont au Parlement, sont au gouvernement, même le président de la République est acteur politique. Mais il cite timidement l'opposition politique. Même la majorité présidentielle est là. Nous voulons que prochainement, comme ils l'ont fait pour le peuple congolais au point 14 et au point 15, ils ont parlé des jeunes expressément, qu'ils parlent aussi de l'opposition et nous allons comprendre qu'réellement il faut un effort pour être église au milieu du village.
Merci monsieur l'abbé de Nancy Cholet, nous vous donnerons la parole à d'autres occasions. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention, au revoir.